des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Jeudi, on est le 26 novembre. Bonjour Vincent.
Salut Mario.
Alors, on avait une annonce aujourd'hui, après une semaine où la question s'est posée de façon de plus en plus intensive. Quand est-ce qu'on aura des vaccins? Mais quand j'ai vu la convocation.
Oui.
Comment, c'est quoi le titre déjà du monsieur qui
c'est
a parlé?
C'est le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, Howard Enjou.
C'est un très bon monsieur.
Oui.
Mais il est trop bas de la hiérarchie pour annoncer des bonnes nouvelles.
Ah, tu penses qu'on aurait...
Je pense que si on avait eu des excellentes nouvelles, ça aurait été M. Trudeau. Qui les aurait gardées pour lui-même.
Ouais.
Et des moyennes nouvelles, ça aurait été le Dr. Tam. Fait que quand c'est l'autre dans la hiérarchie qui annonce qui sort pour dire, moi, je vais faire le point sur le vaccin.
Ah.
Tu comprends que c'est parce que
Ben, ce qu'on apprend, c'est que toi et moi, il n'y aura plus de neige, là, probablement, quand on sera vacciné.
Oui,
ça,
c'est clair.
Que, on attend donc 6 millions, finalement, de doses de Moderna et Pfizer, là. Donc, les deux ensemble, d'ici la fin du premier trimestre, mars. Mais il faut diviser ça par deux parce que c'est deux doses. Donc, 3 millions de Canadiens seraient vaccinés, d'ici, la fin de l'hiver.
C'est à peu près au Québec, le quart de ça, 700-725 000 doses, quelque chose
exact.
Du genre.
Exact. C'est pas, on est content, là. Mais on ne sera pas encore sorti.
On voit que c'est un rythme lent. On va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100 % Nouvelles.
15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salut à tous tes auditeurs. Ben évidemment, on n'a pas le choix, Mario. Là, parlons d'abord du plan de Noël et de la pandémie et du plan de Noël. Mario, je sais pas pour toi, mais ce matin, lorsqu'on a appris à quel point le bilan du jour était sombre, plus de 1400 nouveaux cas, on se disait, oh, est-ce que le gouvernement va commencer à rétro-pédaler, comme disent les Français, commencer à rentrer la pâte dans le tube avec le congé des fêtes. Mais Mario, as-tu été surpris? Parce qu'au contraire, enfin, il y a toujours une condition, mais en autant que ça s'aggrave pas. Mais là, le gouvernement qui a un peu assoupli les règles pour les rassemblements à Noël. Mario, là, on demandait aux gens une période d'isolement d'une semaine. Là, attention, si vous devez travailler, soyez très, 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 très prudent, puis vous allez pouvoir vous rassembler aussi. C'est une bonne nouvelle, en principe, pour bien des gens qui nous écoutent, Mario.
Oui, mais c'est mot à mot. L'interprétation que j'en faisais, moi, hier, puis avant hier, puis c'est... Parce que là, les gens veulent que le gouvernement... le gouvernement choisit le verbe là, « devrait s'isoler »,« suggère de s'isoler ». Là, on est rendu qu'on analyse le verbe. Je pense qu'à la fin, M. Legault a demandé aux gens qu'il va falloir être intelligent un peu. Puis c'est que si on en revient à ça, là, moi, je comprends là, qu'on veut... On veut des règles claires du gouvernement, mais il n'y a rien de clair là-dedans. Là, dans chaque party, dans chaque fête, dans chaque famille, il y a une circonstance particulière qu'une personne, durant l'année, il y a une matante qu'elle a eu un cancer. Dans l'autre famille, grand-maman est très vieille. Si on demande à M. Legault de les régler un par un, on n'en sort pas. Donc, il y a vraiment un point où je pense qu'il faut en faire appel. Ça fait 9 mois qu'on parle de ça. Je pense qu'on a compris les bases de comment on protège des gens. Donc là, avec le gouvernement nous donne un petit cadre là, pour Noël, il me semble qu'on commence à en avoir assez. Et il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, la vraie question, là, plutôt que d'aller jouer dans le choix du verbe, c'est-tu, l'as-tu conjugué au subjonctif qui voudrait dire que j'aurais peut-être le droit? Je pense qu'on est plus à regarder le nombre de cas. Là, 1400 cas, je me méfie parce qu'en statistique, c'est une seule journée. On a vu les deux là, depuis le début de la pandémie, des journées anormalement hausses, des journées anormalement basses. Puis quand on ramène ça sur un cycle de 7 jours, ça se balance. Mais disons que... Comme on était parti sur un plateau de 1000, puis après ça, un plateau de 1200, puis là, ben, on voit un 1400, on peut pas ne pas, même si on dit qu'il faut rester calme puis le mesurer sur 7 jours, on ne peut pas au moins voir une petite lumière jaune dans le tableau de bord. Là.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Et là, tu disais, là, sans nécessairement là, au microscope regarder le temps de conjugaison du verbe du gouvernement. L'objectif, c'est qu'il ne parle pas de ça au passé. On s'entend,
non.
C'est que ça soit pas.
Non. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Je veux dire, si le nombre de cas part vraiment à la hausse, là, ça va être annulé, tout ça. Il faut faire face à la réalité. Ouais.
Entre-temps, sur les règles, parce que je t'écoute parler, j'essaie de suivre ton raisonnement, puis c'est drôle, je me rappelais une phrase qu'employait souvent Jacques Parizeau à l'époque. Là. Puis là, je regarde un peu, à peu près tout le monde critique, là, parce que effectivement, chaque cas est un cas d'espèce. Là. Tu sais, est-ce que tu... Bon. Mais en même temps, quand Jacques Parizeau disait, là, on fait un peu trop dans le gossage de poils de grenouille. C'est venant de lui, c'est toujours drôle. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu là-dedans en ce moment, dans le débat? Est-ce que c'est ce que tu m'as dit?
Oui, mais aussi dans l'oubli d'un fait, ce ne sont pas, comment je dirais ça, je veux pas mal interpréter, ce ne sont pas des règles au sens que le code de la route impose des règles. Si on ne les respecte pas, ça va être sanctionné. Là, c'est un cadre qu'on nous fixe pour fêter Noël en toute sécurité. Puis la notion de sécurité, elle est double. En toute sécurité individuelle, le gouvernement nous donne un cadre pour pas qu'on rende malade, pour pas dire pire que ça, nos proches. Bon. Deuxièmement, le gouvernement nous donne un cadre pour que collectivement, au-delà de chacun et famille individuellement, collectivement, on se remette pas dans une hausse des cas qui va compliquer la vie des mois suivants, puis faire souffrir le système de santé, puis etc., puis causer des dizaines, des centaines, des milliers de morts. Donc ça, c'est le cadre. Mais ça reste, là, le mot important, c'est un contrat moral. Prenons le cas des gens qui pourront pas faire le 100 jours d'isolement. Bon, ce qu'on pense sérieusement, est-ce que quelqu'un sérieusement là, a pensé que la police allait débarquer dans un party et interroger les gens, à savoir, toi, t'as-tu travaillé jeudi? T'as pas travaillé vendredi? Je pense que t'es vu au dépanneur vendredi. Voyons, c'est évident que c'est laissé à la bonne conscience de chacun. Ce qu'on nous fournit, c'est une logique. Si vous vous êtes isolé, vous avez comme assuré davantage que vous êtes plus proche du risque zéro. Quoique, pour ça, il faudrait être isolé plus 11 jours que 7. Mais quand même, on s'en rapproche d'un risque quasiment nul. Mais si on s'est pas isolé, ce que ça veut dire, c'est si on demande aux autres de faire attention. Mais toi, tu as travaillé jusqu'au 24 à 5 heures parce que tu travailles dans un magasin. Mais toi, on te demande pas de faire attention. On te demande de faire archi super attention, et un peu plus. Donc, plutôt de rester à 2 mètres, reste à 2,5 mètres. Garde ton masque plus longtemps. S'il y a une grand-maman dans la place qui a 90 ans, garde-toi plus loin que loin. C'est la logique. Et bon, peut-être que le gouvernement nous fait trop confiance en nous. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens, ce qui me paraît bizarre, j'avais cette discussion-là hier avec Emmanuel Latraverse. Des fois, on a l'impression que les gens, ils voudraient que François Legault leur dise, si vous faites ça, c'est correct. Ou, dans le sens que si jamais ils le font, puis grand-maman décède, c'est pas de notre faute à nous autres dans le party, là, c'est Legault. Legault a dit on pouvait le faire, puis là, comme si on n'avait plus notre responsabilité, nous autres, on a rendu malade un proche, mais on serait autorisé à blâmer le gouvernement, parce que dans une conférence de presse, le gouvernement aurait dit, hey, les amis, là, on parle de party d'adultes. Il se peut avoir des adultes dans tous les parties de Noël avec un jugement, un quotient intellectuel minimum pour mesurer tout ça, l'analyser. Puis on n'est plus dans la première semaine de la pandémie, là, quand même. Toutes les mesures, ça fait des mois qu'on parle de ça. On commence à être outillés pour juger de nos propres situations, là.
Donc, une décision, en fait, personnelle et familiale aussi pour...
Dans un cadre fixé par le gouvernement, c'est ça.
Exactement, mais qui a changé un peu aujourd'hui quand même. Mario, l'autre nouvelle, les révélations du bureau d'enquête, quand même quelque chose, tu sais, que la mafia, que le crime organisé là, tente de blanchir de l'argent dans des casinos, des maisons de jeu, regarde, c'est vieux comme le monde, mais en même temps qu'on accorde à des leaders suivus, connus, reconnus de la mafia, des cartes privilèges, des cartes bonbons. Mario, comment tu as réagi en voyant ça?
C'est gênant, franchement, là. C'est gênant. Il y a quelque chose de profondément indécent dans ça aussi. Moi, c'est un milieu, il y a des gens qui sont passionnés de crimes organisés puis des films Le Parrain, puis tout ça. Moi, je m'intéresse assez peu à ça. Mais moi, je pensais sincèrement que c'était comme C'était comme une job là, dans la mafia ou dans le crime organisé. T'es un blanchisseur d'argent. Là. Tu partais, t'allais au casino. Pour... Puis t'étais un inconnu. Il fallait pas que tu sois une face connue. Puis t'allais faire ça pour les autres. T'allais blanchir de l'argent, tu jouais au casino, puis t'en ressortais une partie. T'en perds une partie, mais ce que tu ressors, là, il est devenu. Tu l'as blanchi, il est redevenu légal. Mais de voir que les patrons eux-mêmes, sans gêne, là, les patrons eux-mêmes, les non-connus, les visages du leadership du crime organisé se présentent au casino, puis là, sont en toute politesse avec le personnel du casino qui leur assure qu'ils ont qu'on leur réservé leur chambre d'hôtel gratuite, puis leur cadeau, puis leur plus que... J'ai été vraiment, vraiment, vraiment renversé. Il y a un sans-gêne là-dedans qui soulève certainement des questions. Et là-dessus, parce que moi, j'ai fouillé un peu plus, nos collègues du bureau d'enquête sont formels. Le document à l'appui, les gens du casino savaient. Quand un monsieur comme M. Sollicito allait, par exemple, en jetons, là, je ne cherche pas, c'est des dizaines, je sais pas, 100 000 $ des montants comme ça, ils ont un devoir légal. Là. Dès que c'est en haut de 10 000, il faut qu'ils remplissent pour un organisme fédéral qui suit les transactions, de le déclarer. Et dans la déclaration, il disait que les provenances des fonds étaient douteuses. Hey. Donc, le casino était en toute connaissance de cause. Bon, la réaction du gouvernement aujourd'hui, on comprend là, que le gouvernement est... D'un côté, est un peu pris au dépourvu par la rapidité avec laquelle ça y arrive. Les réponses sont très évasives. On veut que le ministre des Finances, je pense, puisse donner une première chance à l'Auto-Québec de s'expliquer. Mais bon, par quoi... aujourd'hui, l'opposition demandait une commission d'enquête publique, tout ça. Pas sûr qu'on veut une commission d'enquête. Mais faudra voir, là, est-ce qu'il y a d'autres choses. Mais peut-être qu'on va vouloir aussi carrément à l'Auto-Québec changer des procédures et peut-être changer des têtes, là. Je serais pas étonné, moi, qu'il y ait des gens à l'Auto-Québec qui y passent.
Sont-ils encore dignes de confiance, là, côté éthique et gouvernance, à suivre? Donc, Mario, l'autre nouvelle, évidemment, là, tout le monde est tombé en bas de sa chaise en voyant qu'il y avait un autre cas de maltraitance de jeunes, encore une fois, du côté de Granby. Mario, allons trouver Jean-François Desbiens, hein, qui suit cette affaire-là pour nous. Jean-François, encore une fois, c'est une histoire d'horreur. Ça impliquait un adolescent qui a été découvert, enfin, et sauvé presque par hasard par un huissier qui s'est rendu sur place. Jean-François, d'ailleurs, un huissier que vous avez rencontré.
Effectivement, Paul, c'est une histoire troublante, encore une fois, qui a passé entre les mailles du filet de la Direction de la protection de la jeunesse. Un dossier qui est survenu, je vous le précise, quelques mois seulement avant le terrible drame de la fillette martyre de 7 ans de Granby. C'est en février 2019, alors qu'un huissier que j'ai rencontré cet après-midi se présente pour exécuter un avis d'éviction à un logement de Granby, trouve sur place, en l'absence d'une mère, trois enfants, l'adolescent de 17 ans, un poupon et un plus jeune d'environ 2-3 ans, affamé, visiblement victime de malnutrition. L'adolescent, lui, est immobile sur le divan, visiblement blessé sur plusieurs endroits de son corps. Aussitôt, le huissier Louis Martin a appelé les policiers et par la suite, tout le processus est enclenché avec la DPJ pour apprendre plus tard, finalement, que le jeune avait été battu à coups de barre de métal, de multiples fractures sur plusieurs parties de son corps. Vous allez entendre le témoignage de ce huissier.
On entend une voix nous dire que sa mère est pas là, qu'elle va revenir plus tard, qu'elle est partie faire une commission. Puis c'est l'adolescent en question là, qui est installé dans le divan, qui a de la difficulté à se déplacer avec l'apparence physique qu'il avait, le visage tuméfié, la condition générale dans laquelle il habitait. Là, c'est clairement, il avait besoin d'assistance puis d'aide. Bien, c'est sûr que moi-même, j'ai des enfants. J'ai un peu de difficulté à concevoir qu'aujourd'hui, en 2020, il y a des gens qui sont encore maltraités comme ça.
Simplement, vous mentionnez en terminant, Paul et Mario, que ce dossier-là avait fait l'objet de signalements de la part de voisins dans les mois qui ont précédé les événements. Rien n'aurait été fait de la part de la protection de la jeunesse. La mère qui a été condamnée il y a 2 semaines à 8 ans de pénitencier pour ses crimes.
Jean-François, merci. Mario, c'est un peu la répétition de l'histoire d'horreur de la fillette. Encore une fois, à Granby. Mario, au fond, vivement le rapport d'enquête de la commission d'Origine Laurent.
Ouais, c'est une histoire qui m'avait touché parce que aujourd'hui, c'est une histoire qui est rapportée là, parce que c'est passé devant les tribunaux. C'est une histoire que le Journal de Montréal avait déjà détaillée dès mai 2019. Donc, c'est rien de nouveau là. Aujourd'hui, c'est un autre cas d'horreur. C'est survenu. Donc, ça nous démontre vraiment qu'il y avait quelque chose de grave là, qui se passait dans la DPJ en termes de d'incapacité de suivre les dossiers parce que c'est vraiment même région, même période de temps aussi là, que la fille martyre, la petite fille martyre de Granby. Donc, ça donne un peu l'idée. Puis dans les deux cas, ce sont des cas où il n'y a pas vraiment d'ambiguïté là, sur la maltraitance. Deux exemples de maltraitance inimaginables où, donc, du point de vue de la DPJ, la seule chose qui peut expliquer ça, c'est l'incapacité de faire les suivis. Effectivement, déjà au gouvernement, on dit on a rajouté des ressources, on a corrigé dans cette région-là des problèmes qui étaient criants. Mais oui, effectivement, le rapport de Régine Laurent va probablement venir compléter un peu ce portrait de ce qui va pas à la DPJ. Ceci dit, il y a des problèmes. J'ai quand même parlé à pas mal de gens là, tu sais, au cours des derniers temps qui ont travaillé à DPJ ou qui ont travaillé avec des cas de DPJ. Il y a une limite au miracle que tu peux faire, Paul, dans un roulement de personnel. Là. Quand c'est jamais le même monde, part en maladie, part en maternité, revient, retourne, un a une promotion, l'autre est déplacé, l'autre est par ancienneté, ouais, renvoyé au CLSC. C'est jamais le même monde. Là. Jamais, jamais, jamais les mêmes intervenants, ces mêmes cas. Je sais pas comment on peut, dans des organisations publiques comme ça, à un moment donné, il faut que tu puisses un petit peu stabiliser tes équipes, ouais, de travail. Des affaires, congé, oui, de maladie, dit qu'on vient de maternité, ouais, il y a des inévitables. Mais il y a un point où il y a tellement plus de stabilité que c'est... En plus, tu manques de personnel, mais le personnel que tu as n'a aucune stabilité. Fait que c'est toujours une nouvelle personne qui passe un dossier. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là.
Merci, Mario.
Au revoir.
À demain.